Ce matin, nous lirons dans l'Évangile selon Luc. Dans le chapitre 1, à partir du verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Réjouissez-vous, réjouis-toi, pardon, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit, « Je suis l'esclave du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. En ces jours-là, Marie partit en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et cria « Béni sois-tu entre les femmes, et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Voilà, je vous invite maintenant à chanter ensemble le psaume, oui c'est ça, le psaume 91, non je me trompe, c'est ça? Oui, le psaume 91, les strophes 1, 4 et 5.
Thank you.
invite à la prière. Et nous prions avec Nicolas Malebranche. Ô Maître, apprenez-moi à faire oraison. Aidez-moi à faire taire mes sens et mes passions, ou élevez votre voix afin que, malgré le bruit confus qu'ils excitent en moi, j'entende clairement vos réponses. Mon esprit travaille par son attention, mais souvent ses efforts sont inutiles. Mon imagination inquiète et chagrine de ce que je m'applique à des sujets où elle n'entend rien. Viens à la traverse et dissipe toutes mes idées avant qu'elles aient passé jusqu'au cœur. Verbe fait chair, raison des intelligences qui avaient pris un corps afin de rendre la vérité sensible à des hommes charnels, accommodez-vous à ma faiblesse. Parlez-moi d'abord un langage qui n'effraie point toutes les puissances de mon âme. Vous savez que je veux invinciblement être heureux. Donnez-moi donc dans l'oraison l'avant-goût des vrais biens afin que je les désire. Donnez-moi le dégoût des faux biens afin qu'ils me fassent horreur. Soutenez par la douceur de votre grâce l'attention de mon esprit. Amen. Dans l'évangile de Luc, l'annonciation est faite à Marie, alors que dans Matthieu, c'est à Joseph. On dit d'elle qu'elle est vierge. Et ici, aucune ambiguïté avec les mots. Nous n'allons pas jouer sur les mots. Ce n'est pas le terme de jeune fille qui est employé, mais bien celui de vierge, parthénon. On sait d'elle qu'elle est fiancée à un homme, Joseph, et qu'il est de la maison de David. Gabriel entre chez elle. Terrible image de ce personnage surnaturel qui entre chez une jeune femme que l'on vient de définir par sa virginité. C'est presque un coup de force. Immédiatement, tous les signes de la transgression de l'intime sont là. D'ailleurs, Marie a peur. Et Gabriel, en bon ange qu'il est, rassure Marie. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Dans la légende dorée de Jacques de Voragine, il est écrit « C'est le propre des bons anges, selon la glose, de consoler à l'instant, par une bénigne exhortation, ceux qui s'effraient en les voyant. » Il poursuit en décrivant les mauvais anges qui, eux, se font encore plus horribles pour faire encore plus peur à ceux qui s'effraient. En tout cas, Gabriel ici fait le bon ange. Pourtant, la suite n'est pas plus rassurante pour la Vierge qui l'entend. Tu vas être enceinte. Littéralement, en grec, ton ventre va devenir une enceinte. Comment la femme vierge ne serait-elle pas effrayée par une telle annonce? Le récit de cette intrusion dans l'intimité de Marie nous oblige à ne pas minorer sa virginité. En bon rationaliste, nous disons qu'il est impossible qu'une vierge soit enceinte. Même la légende dorée ne suffira pas à contrer cette évidence. Voici ce qu'on peut y lire. Au moment de l'enfantement, Joseph, qui ne doutait pas au reste que Dieu dût naître d'une vierge, appela, selon la coutume de son pays, deux sages-femmes qui s'appelaient l'une Zébel et l'autre Salomé. Zébel, en examinant Marie avec soin et intention, la trouva vierge. « Une vierge à enfanter !» s'écria-t-elle. Salomé, qui n'en croyait rien, voulut en avoir la preuve, comme Zébel, mais sa main se dessécha aussitôt. Cependant, un ange qui lui apparut lui fit toucher l'enfant, et elle fut guérie tout de suite. En bon lecteur et interprète, il faut bien prendre au sérieux le motif de la virginité tellement mis en avant dans le récit de Luc. Luc n'était pas plus ignare que nous en gynécologie, sans doute. On dit même qu'il était médecin. Il devait bien savoir qu'une vierge n'enfantait pas. Alors pourquoi insister à ce point sur une chose impossible ? L'interprétation classique consiste à convoquer la prophétie d'Ésaïe. La jeune fille est enceinte, elle mettra au monde un fils et lui donnera le nom d'Immanuel. C'est donc dans Ésaïe 7. Cette prophétie est un signe de Dieu qui doit annoncer le salut d'Israël. Les rédacteurs de l'évangile de Luc auraient donc fait coïncider la promesse du signe avec le récit de la naissance de Jésus, quitte à user du merveilleux pour accréditer le statut de Messie de Jésus. On pourrait s'en tenir à cette version et refermer l'évangile de Luc en croyant avoir tout compris de la machine à homologuer que représente la rédaction des récits de nativité. Mais dans le merveilleux, la vérité se laisse parfois mieux comprendre que dans les récits les plus logiques. Et c'est un savoir plus profond sur l'homme et sur sa foi que nous pouvons atteindre en lisant, pourtant, des choses parfaitement impossibles. Qu'on les lise dans les évangiles ou dans la légende dorée, les récits sont écrits à l'encre des merveilles. Et c'est justement là que nous pouvons trouver la trace la plus profonde de la foi de ceux qui les ont écrits, bien conscients que c'était impossible, mais bien conscients aussi que le lecteur y trouverait aussi son miel. Pour comprendre la portée de ce motif de la Vierge qui enfante, il est bon de regarder comment, à d'autres époques, d'autres croyants ont compris ce motif. Et c'est par les arts experts du merveilleux que je vous invite à faire un détour, la poésie et la peinture. C'est d'abord dans la poésie médiévale qu'apparaît d'une façon originale de parler de Marie comme une vierge qui enfante. En effet, c'est là que surgit la métaphore du jardin clos. En reprenant le verset biblique du Cantique des Cantiques, « Tu es un jardin clos, ô mariée, ma sœur, ma fontaine, une fontaine close, une source scellée. Tes pousses sont un verger de grenadiers aux fruits exquis. » Voilà dans le chapitre 4 ce qu'il est écrit au Cantique des Cantiques. Les poètes vont comparer Marie à ce jardin clos, hortus conclusus. Puis les peintres déploieront des talents extraordinaires pour représenter des annonciations dans des jardins clos de palissades de bois ou de murs parfois crénelés comme des forteresses. Fra Angelico, par exemple, représente la Vierge assise sous un portique à colonnes de pierre dans un jardin clos et derrière elle, une fenêtre fermée de gris insiste sur le thème de la clôture. Cette image du jardin clos résonne des mots du récit du jardin d'Éden, bien sûr. Et comme si Marie reprenait en son sein la misère de tous les descendants d'Adam, c'est l'histoire du péché et avec elle celle du salut de Dieu qui résonne dans cette métaphore du jardin clos. La virginité de Marie n'est pas une image de la morale au secours de la transgression. Il ne s'agit pas là de faire de Marie une femme morale. La virginité de Marie nous fait entrer dans l'intimité d'une foi affrontée aux choses impossibles. Soit impossible parce que tellement inattendu et improbable, soit impossible parce que tellement inacceptable. Derrière l'impossible merveilleux d'une vierge qui enfante, se profile l'impossible affront bien réel, celui-là, d'être mère alors même que l'on est promise vierge à un époux. Quand la femme stérile enfante, enfin, dans les récits bibliques, ce sont les lois de la nature qui semblent transgresser. Le problème n'est pas tout à fait le même. L'honneur d'être mère est donné à la femme qui était vue comme incapable d'enfanter et donc mal considérée socialement. La femme stérile qui devient mère, c'est un miracle, un rétablissement, une joie. Mais quand c'est une vierge qui enfante, une fiancée qui devait arriver vierge à son mariage, ce sont les lois morales qui sont transgressées. Et il ne s'agit pas tant d'un miracle que d'un problème et même d'un tabou. Où cette femme trouvera-t-elle à nouveau son honneur? Comment sera-t-elle considérée par son futur époux, ceux de sa parenté, de son pays, de sa religion? Qui croira qu'il s'agit d'un signe de Dieu comme l'annonçait Ésaïe? N'est-elle pas simplement fautive et pécheresse aux yeux des hommes? Imaginez la solitude de Marie à cette annonce. Considérer le ventre de Marie comme un jardin clos pourrait être une façon de vouloir de la pureté là où l'engendrement la rend impossible. Mais cela peut être aussi une façon de vouloir rendre saint le profane. Ce qui, avant le Christ, était de l'ordre de la faute et du péché, devient avec lui racheté, sauvé, repris, accepté. Avec la naissance du Sauveur, la première sauvée est cette enceinte de jardin que personne n'a le droit de juger, cette forteresse que Dieu s'est choisie et où le fruit de la foi mûrit lentement. Le ventre de Marie devient le Saint des Saints, non pas pour un Dieu, mais pour l'humanité. Et si la foi de Marie était précisément ce qui est enfermé dans la clôture de son ventre? Et si la foi pouvait sauver la souillure d'être enceinte alors qu'elle devait être vierge? Contre toute convention sociale, contre toute attente de sa part, Marie apprend que c'est une bonne nouvelle d'être enceinte alors qu'elle est considérée comme vierge. La malédiction prononcée contre Ève n'est plus. L'engendrement devient promesse, grâce et bénédiction. La grâce de Dieu vient sauver la génération. Dans le jardin clos, le secret de Marie est protégé et personne ne peut l'atteindre. C'est une affaire entre Dieu et elle. En ce sens, l'histoire des deux sages-femmes de la légende dorée est juste. La sage-femme qui a douté de la virginité de Marie et qui voulait prouver le contraire a eu sa leçon. Le jardin clos de la foi intime ne se transgresse pas par des demandes de justification et de preuve. Il faut croire que cela est possible à celui qui croit. Il faut simplement croire. La guérison de la main sèche achèvera de convaincre la sage-femme sceptique. Il ne s'agit pas de savoir si la grossesse de Marie est possible, il s'agit de croire que cette Vierge, devenue mère, est sauvée. Comme si les deux motifs devaient se rapprocher pour être mieux compris, la Vierge enceinte court rencontrer la femme stérile. Marie court chez Élisabeth, comme si la nouvelle alliance allait chercher son accomplissement dans le témoignage de l'ancienne alliance. Marie va chez celle qui représente toutes les femmes stériles qui ont pourtant accouché. De Sarah à Élisabeth en passant par Rachel, Marie entre chez Zacharie, dont le nom veut dire « Dieu s'est souvenu » et fait mémoire du serment entre un peuple qui a besoin de libération et son Dieu libérateur. Élisabeth est le prénom d'une femme de la Bible que l'on trouve dans le Premier Testament. La femme d'Aaron s'appelle Élisabeth. Élisabeth veut dire « Dieu est mon serment ». Elle représente une nouvelle ère pour le service de Dieu, car elle mettra au monde un prophète, trahira pas le Dieu qu'il sert. Les fils de la première Élisabeth s'étaient mal comportés dans leur manière de servir Dieu. Deux d'entre eux étaient morts avant leurs parents, terrible malédiction pour Aaron. Le fils d'Élisabeth que va voir Marie, lui, sera le Baptiste, un homme intègre et juste devant les hommes et devant Dieu. Sa fin sera cruelle à lui aussi, mais il sera le serviteur que Dieu attendait pour annoncer son salut. Élisabeth est donc une autre figure du salut. Elle représente une nouvelle prêtrise qui sera prophétique cette fois. Quand les deux femmes se rejoignent et que, en leur sein, les nouveaux Moïse et Aaron sont en gestation, le ventre d'Élisabeth tressaille de joie. Jean Chrysostome écrit « Jésus-Christ fit saluer Élisabeth par Marie afin que sa parole sortît du sein de sa mère, séjour du Seigneur, et reçue par l'ouïe d'Élisabeth, descendit jusqu'à Jean qui, ainsi, serait sacré prophète. » Il y a donc un message qui traverse le corps d'Élisabeth grâce à Marie qui vient la saluer. Et ce message va arriver jusqu'à Jean le Baptiste, prophète avant sa naissance. Jean le Baptiste est en communication avec son Sauveur avant même de voir le jour. Au travers de la palissade de leur jardin clos respectif, les deux fœtus se reconnaissent l'un l'autre, comme dans une prophétie intra-utérine, comme si le monde nouveau était en gestation et que ces deux petits hommes l'annonçaient en bougeant dans le ventre de leur mère. Avant même d'exister pour le monde, ils existent comme monde, un monde nouveau, où la mort est dépassée, où la naissance même est dépassée par le temps prophétique, car ils existent avant leur existence pratiquement. Par l'annonce du salut, le temps tout à coup est immense, éternel. Ils sont plus grands qu'eux-mêmes. Ils existent avant eux-mêmes, préfigurant ainsi qu'ils existeront aussi après leur mort et qu'aucun tombeau ne pourra les enfermer dans la clôture de la mort. Dans ce tressaillement de joie se trouve la vie éternelle. Entre les deux mères à l'épreuve d'un réel qui ne se laisse pas enfermer dans la loi morale, une connivence se crée. Elles se réjouissent ensemble. Elles ne sont plus soumises à la fatalité du destin. Elles écriront leur histoire du salut en donnant naissance à 6 mois d'intervalle à 2 enfants qui changeront le monde dans lequel ils vont naître. Dans l'intimité de ces deux gestations, la même foi anime la vie. Une foi en un salut qui nous sauve de la condamnation, de la faute irréparable, de l'indignité et de la honte. Le souffle saint qui engendre ces deux êtres qui communiquent ensemble renoue sous la plume de Luc avec le souffle créateur du Dieu de la vie. Avec lui, chacun peut traverser sa propre mer rouge, son chemin de libération et être libéré des esclavages conventionnels. Avec ce Dieu de la vie, chacun peut donner une signification au réel qui met sa vie à l'épreuve, en faire un signe de salut de Dieu, le raconter comme une bénédiction, même si les autres se moquent de lui ou le condamnent. Marie est bénie entre toutes les femmes parce qu'elle attend un enfant hors mariage. Extraordinaire, non? Elle est la Vierge qui enfante. Ce n'est plus sa faute, c'est son histoire. Et Élisabeth est dans la joie profonde d'une femme qui enfante après avoir vécu dans la honte que son époque faisait peser sur les femmes stériles. Elle n'est plus la vieille femme dont la maternité fait rire. Elle est la mère d'un prophète. Rien n'est impossible à Dieu, il faudra bien s'y faire. dans son traité intitulé « Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ?», Anselme de Cantorbéry écrit à propos de Marie « Dieu peut créer l'homme de quatre manières, sans homme ni femme, comme il a créé Adam, d'un homme sans femme, comme il a créé Ève, d'un homme et d'une femme, comme d'habitude, d'une femme sans homme, comme cela s'est opéré merveilleusement aujourd'hui. » Quand on sait combien les questions de gestation soulèvent encore aujourd'hui de condamnations morales, il est intéressant de se demander toujours où est le Dieu sauveur dans ces histoires? Dans quel ventre prépare-t-il le monde de demain? De quels parents naîtront les sauveurs qu'il appelle? Comment cela se produira-t-il? Demandait naïvement Marie. Il y a peut-être une cinquième manière divine pour créer un homme, sans vouloir me mesurer à Anselme de Canterbury. En l'adoptant comme fils et en l'aimant inconditionnellement, comme il est annoncé dans le baptême, c'est peut-être là que sont créés les hommes de Dieu. C'est peut-être cet amour sans jugement qui sauvera notre humanité. Amen. Thank you.